grand bien vous fasse, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 10h. Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Grand Main Vous Fasse en direct et en podcast. Et ce matin, quelques ouvrages qui font du bien pour bien commencer l'année. Pas forcément des nouveautés, pas forcément des feel-good books à la noix que je ne nommerai pas. Une sélection de livres qui enrichissent et éclairent notre vie quotidienne. Des amis qui vous accompagneront tout au long de l'année parce que la lecture est une amitié, comme l'écrivait Proust. Au programme ce matin, le Larousse des arbres, 365 jours avec Sampé, une révolution sexuelle de Laure Murat, La vie solide d'Arthur Lockman, Les pensées pour moi-même de Marc Aurèle, Les propos sur le bonheur d'Alain, La meilleure des vies de J.K. Rowling ou encore La communication non violente de Marshall Rosenberg. Bien utile, vous le verrez, en ces temps de clash permanent qui empoisonne nos sociétés. Et vous, quels sont les ouvrages de philosophie, de psychologie, de développement personnel, les dictionnaires, les témoignages, les essais que vous avez envie de partager ce matin? N'hésitez pas à nous appeler au 01 45 24 7000, à nous écrire sur la page Facebook de Grand Main Vous Fasse et sur l'appli France Inter. Bienvenue dans Grand Main Vous Fasse, la vie quotidienne mode d'emploi.
France Inter. Grand Bien Vous Fasse. Ali Rebbi.
Flaubert dit à Madame de Chantepie, lisez pour vivre. C'est-à-dire, allez chercher dans les livres les mots qui vont vous dire ce que vous êtes en train de vivre dans la vie réelle. Parce que ce n'est pas que les livres remplacent la vie, sinon que les livres nous permettent de saisir avec des mots les expériences de la vie que nous ne pouvons pas nommer.
L'écrivain Alberto Manguel dans L'Heure Bleue en 2018. Avec nous ce matin pour nous délivrer quelques bons conseils de lecture, Christy Lapelle-Edouelle, bonjour.
Bonjour Ali.
Responsable de la page livre à Psychologie Magazine, avec à la une ce mois-ci un dossier intitulé « Réinventer sa vie ». Julien Bisson, bonjour.
Bonjour Ali, bonne année.
Bonne année à vous aussi, rédacteur en chef de l'hebdomadaire Le 1 et de la très belle revue America. Le nouveau, tout nouveau numéro vient de paraître, consacré à la question de la race en Amérique. Bonjour Anne Cazobon.
Bonjour Ali.
Journaliste spécialiste en psychologie et en développement personnel, conférencière également. Bonjour Thibaut de Saint-Maurice.
Bonjour Ali.
Professeur de philosophie, mon compère du jeudi et bien évidemment Guillemette Todisino, ma complice du vendredi.
Bonjour Ali.
Bonne année à tous. Alors, Christy Lapelle-Edouelle, dans quelles conditions un livre de psychologie, de philosophie, de développement personnel, un essai peut nous changer, peut être susceptible de nous faire du bien? Comment ça marche?
Alors, ça marche de deux manières. On peut le lire soit au moment où on en ressent vraiment le besoin, parce qu'on est dans un état émotif particulier, pas forcément d'ailleurs dépressif. Ça peut être aussi un moment joyeux, heureux, épanoui. Et puis aussi dans les moments où on a envie de réfléchir et de pousser un petit peu plus loin sa propre pensée, qui est parfois et même assez souvent insuffisante. Et on a besoin d'un soutien, d'un été pour avancer dans la vie et dans son développement intérieur. Je dirais pas développement personnel, je dis développement intérieur.
Et pour vous, les livres qui font du bien sont ceux qui éloignent les bêtes féroces dans la jungle de notre esprit, ceux qui allument un feu de joie dans les sous-bois de notre inconscient, ceux qui nous rendent libres.
Oui, je pense que d'ailleurs Alberto Manguel, qui est une de mes idoles personnelles, le dit tellement bien en disant qu'en effet, les livres sont ceux qui nous permettent de nous déployer, de déployer vraiment nos capacités et d'allumer des lumières là où on ne pensait pas qu'il pouvait y en avoir. Donc il s'agit, alors on parle de philosophie évidemment, Thibaut est là, il en parlera bien mieux que moi, mais la littérature fait aussi cet effet et la poésie qui est mon dada, comme vous le savez.
Anne Cassobon.
Oui, c'est vrai que le développement personnel aujourd'hui, il vient s'illustrer dans des podcasts, des émissions de radio, des conférences, des vidéos sur internet, des magazines et des livres. Et moi je me souviens de cette thérapeute qui disait que le livre de développement personnel, c'était un peu comme le mot vin, comme l'alcool, la boisson, le vin, on pouvait le lire 200 fois, on n'en sera pas ivre. Et donc, à un moment donné, il y a quand même, ça s'expérimente, le développement personnel. Ça peut être une porte d'entrée, ça peut être un début d'un rendez-vous avec soi-même, mais ça ne fait pas tout.
Thibaut de Saint-Maurice, allez, j'aimerais qu'on commence avec vous cette sélection, avec un ouvrage qui peut nous rendre plus libres, Les pensées pour moi-même, de l'empereur philosophe Marc Aurèle, disponible évidemment en poche. Marc Aurèle, l'une des grandes figures du stoïcisme romain, un auteur pas seulement réservé à vos élèves de terminale.
Oui, c'est une manière de peut-être de commencer par un des commencements possibles de la philosophie, parce que en fait, ce sont donc des, comme le titre l'indique, des petites pensées. Ce sont des notations que prenait Marc Aurèle, qui était un empereur qui a beaucoup en fait vécu en dehors de Rome pour faire la guerre notamment, et qui sous sa tente, voilà, prenait ses petites notations. En fait, j'aime beaucoup ce livre parce que d'abord on peut le picorer, on peut y aller quand on veut, on peut en fonction de la journée, en fonction de l'état où on est, etc. Et surtout, c'est parce que on est dans une pratique de la philosophie. On n'est pas dans une analyse de nos représentations, ce qui est intéressant aussi, hein, mais on n'est pas dans une analyse conceptuelle, dans une polémique d'arguments sur différentes représentations ou hypothèses d'interprétation, etc. En fait, on n'est pas donc dans une spéculation théorique, donc comme on pourrait croire qu'est la philosophie. On est dans quelque chose de très pratique, qui est comment faire face à la colère. Qu'est-ce que c'est que mon autorité de chef ou d'empereur, faire face à mes sentiments, peut-être de tristesse ou à mon émotion. Voilà, on est vraiment sur quelqu'un qui nous donne l'exemple de son du travail qu'il fait, de son rapport avec lui-même. Voilà, le titre est important, ce sont des pensées pour lui-même, mais que nous, on a la possibilité de lire. Et je trouve que c'est extrêmement structurant, extrêmement même rafraîchissant par certains endroits, parce qu'on se rend compte qu'il y a 2000 ans, en fait, la question de savoir comment gérer une émotion, elle se pose aussi bien qu'aujourd'hui. Et après, effectivement, dans un deuxième temps, il y a aussi les fondements de cette sagesse qu'on appelle le stoïcisme et qui a structuré toute la culture européenne.
Et quelle est la doctrine et la pratique défendue par Marc Aurèle dans Les pensées pour moi-même ?
Alors, il y a beaucoup de choses, mais le principe fondamental est le suivant, c'est que nous devons, pour être sages, c'est-à-dire pour ne plus être troublés par ce qui nous arrive, nous devons prendre le temps et faire l'effort, et c'est un travail de toute une vie, de distinguer ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous. Don Quichotte, qui se bat contre des moulins, en fait, n'a pas fait cette distinction, et donc se condamne à une forme ou bien de malheur, ou en tout cas de désespoir, ou en tout cas d'échec. Mais pour Marc Aurèle, ce qui est important, c'est de savoir qu'il y a des choses qui dépendent de nous, par exemple mes représentations, mes désirs, ma volonté. Et puis il y a des choses qui sont totalement indépendantes de ma volonté. Et donc, si je me bats contre ces choses qui sont indépendantes de ma volonté, je me condamne, en fait, à l'échec, au malheur. Un jour, il peut m'arriver des choses bien, et un autre jour, il peut, au contraire, c'est la galère, je ne sais pas pourquoi. Mais ce qu'il faut, c'est donc se recentrer uniquement sur ce qui dépend de nous. Et donc, c'est ça qui est génial, c'est que c'est une pratique de la philosophie qui fait exister le rapport à soi comme condition de la sagesse.
Anne Cazobon.
Moi, j'aime bien le développement personnel quand on le voit sous la forme du dépouillement personnel, de cet oignon que l'on pèle et où l'on détricote ce que l'on nous a tricoté, toutes ces croyances que l'on nous a inculquées, tous ces projets que l'on a représentés pour une famille, pour une société.
Pour bien commencer l'année, donc, Les pensées pour moi-même de Marc Aurèle, disponible en poche. Priscilla Pelédouel, un ouvrage qui peut nous aider à mieux penser en ce début d'année, c'est Le petit bon usage de la langue française de Grévis. Maurice Grévis, né à Rulle en Belgique en 1895. Pourquoi donc ce choix ? Un peu étonnant, Priscilla Pelédouel.
Oui, mais c'est d'abord parce qu'il vient de paraître, donc c'est la nouvelle édition, parce que c'est un livre éternel et inusable, et parce que surtout c'est, à mon avis, un outil de reprise du pouvoir sur soi-même et sur, d'une manière plus générale, sur la société. C'est-à-dire que la maîtrise de la langue est vraiment un outil essentiel pour ne plus être une victime et pour refuser d'être une victime. Et ça vaut absolument pour tout le monde, que ce soit pour les enfants qui sont en phase d'apprentissage, pour les adultes qui ont des difficultés, ou pour les adolescents qui se sentent mis de côté et qui, du coup, utilisent un infralangage entre eux pour se sentir justement appartenir à une communauté. Or, l'utilisation, la bonne utilisation du français est vraiment un outil fondamental d'égalité sociale. Et j'y tiens beaucoup parce que ce n'est pas juste une histoire de, comment dire, de conformisme ou de conformité à une langue qui serait celle des gens chics, riches et qui ont fait de longues études. Je ne vise personne. Mais c'est vraiment, voilà, la langue, il faut s'en saisir et ne pas en avoir peur. Et le bon usage de Maurice Grévy's, que j'adore, parce que c'est une mine, c'est une bible, on peut sans arrêt y revenir. On a, même quand on écrit, on est tous ici dans ces professions de l'écriture et de la pensée. Et quand on écrit, on a besoin sans cesse d'y revenir. On se pose sans cesse des questions sur, par exemple, alors le cas le plus classique, c'est évidemment l'accord des participes.
Oula,
mais
oulala.
Pas que.
Et non, le doublement des consonnes.
Le doublement des consonnes. C'est relativement facile.
Bah, ça dépend des mots, hein. On fera tout à l'heure un test dans le couloir.
Mais le pluriel des mots composés et toutes les choses trappes, voilà. Tiens, en voilà une. Des conjugaisons. Les conjugaisons en français sont terribles, avec en plus des modes que nous oublions, que nous laissons tomber. Et donc, du coup, la langue s'appauvrit. Donc, ressaisissons-nous du subjonctif. Moi, je lutte pour l'utilisation du subjonctif.
Julien Bisson.
Oui, c'est le Grévy's, c'est un outil qui devrait être essentiel aussi aux journalistes quand ils écrivent leurs articles. Pour en avoir parlé avec beaucoup d'écrivains, les écrivains eux-mêmes, on nous dise très régulièrement qu'ils ont tous sur leur bureau le Grévy's, parce que c'est dans le tissu même de la langue parfois qu'ils trouvent l'inspiration. C'est-à-dire, c'est pas simplement le sens, c'est aussi la forme de la langue. Et le Grévy's est un de ces outils qui permet d'accéder à ce tissu.
Oui, parce que souvent, ce sont les idées qui viennent des mots et pas forcément l'inverse.
Oui, et alors ce qui est intéressant aussi avec le Grévy's, ce qui est la particularité du Grévy's, c'est qu'il s'appuie sur l'évolution de la langue et sur les citations des auteurs et des auteurs contemporains, pas seulement et aussi des auteurs classiques, mais des auteurs contemporains. Ce qui permet évidemment de comprendre aussi la finesse et la manière dont nous changeons avec notre langue.
Le petit bon usage de la langue française, le Grévy's, c'est le conseil de Christine Lapelle-Douel. Guillemette Audicino, alors là, vous me faites plaisir. Un merveilleux calendrier qui va nous accompagner tout au long de l'année. C'est le calendrier perpétuel de Sampé.
Oui, alors je suis un peu méchante parce qu'il n'est pas si facile que ça à trouver. Souvent, il faut l'acheter d'occasion parce qu'en fait, on s'arrache cet objet qui est...
Une merveille.
C'est merveilleux et vous rendez compte, c'est Sampé tous les jours.
J'ai terminé
ma chronique, c'est Sampé tous les jours. Mais en fait, je voulais vous dire que c'est parce que c'est un de vos auditeurs, Ali, qui m'a écrit suite à votre émission sur l'oisiveté. Nous avions parlé d'un film comme un avion qui parle de l'oisiveté. Donc on parlait aussi de ce que la poésie naît souvent de l'oisiveté. Et il m'a écrit une lettre juste pour me dire: Madame Audicino, vraiment, il faut absolument que vous ayez le calendrier perpétuel de Sampé. Il s'appelle Jean-François, donc je l'embrasse. Et rien que sa lettre était un plaisir. D'ailleurs, tiens, j'en profite, écrivez-vous aussi, lisez, mais écrivez-vous les uns les autres. Ça fait tellement de plaisir de recevoir une lettre, joliment écrite et tout. Et donc, je me suis dit, mais oui, absolument, il faut dire à tout le monde d'avoir Sampé à demeure, hein, chez soi. Alors, si vous trouvez pas le calendrier perpétuel, qui déjà en soi est une idée géniale. C'est-à-dire, en fait, quelle que soit l'année, avec Sampé, que vous êtes en 2019 comme en 1952, comme... Enfin, vous êtes avec... Vous savez, il dit que c'est pas ces personnages qui sont tout petits, c'est le monde qui est tellement grand. Bon, donc, vivez avec cette philosophie au quotidien avec lui. Et si vous ne trouvez pas ce calendrier perpétuel, prenez l'agenda de l'année. Là, il y a un petit musicien en couverture cette année. Cette année, c'est plus l'agenda de Sampé, c'est plutôt sur la musique. Enfin, vivez avec Sampé, mince.
Le conseil de Guillemette Audicino. Quelques messages sur notre page Facebook. Édouard nous conseille toute l'œuvre de Sylvain Tesson. Et il a bien raison. Une belle manière de s'évader et ouvrir les yeux sur notre monde. Stéphanie. Pour elle, ce sera Petite Poussette de Michel Serre. Et pour Muriel, Cessez d'être gentil, soyez vrai de Thomas d'Azembourg. Un livre que j'ai décidé de lire à un moment où j'étais mal et qui m'a aidé à reprendre le pouvoir dans ma vie. Et vous, quels sont les essais, les ouvrages de psychologie, de philosophie, de développement personnel, les témoignages, les dictionnaires et même les livres de cuisine que vous avez envie de partager en ce début d'année pour vous faire du bien et pour nous faire du bien au 01 45 24 7000, sans oublier l'appli France Inter et la page Facebook de Grand Bien vous fasse. À la préparation de cette émission, Claire Destacan et Antoine Vandeville, avec l'aide de Laura Laplot, à la réalisation Sonia Leglen. Something to play with. Go and find yourself a toy. Cause baby, my time is too expensive. And I'm not a little boy. No, no, no. You are serious, little girl, then don't play with my heart, it makes me furious. Mm-hmm. Oh, but if you want me to love you, then baby I will, girl you know that I will. Tell it like it is. Don't be ashamed. Let your conscience be your guide. But I'm, Lord, I know deep down inside of me, I believe you love me for your foolish pride. Life is too short, Lord, to have sorrow. Yeah. You may be here today, oh my darling, you may be gone tomorrow. So you might as well get what you want. So go on and live, baby, go on and live. Tell it like. I'm nothing to play with. Girl, you better find yourself tall. But I know deep down inside of me, I believe you love me, but I'm not your little boy. No more. Aaron Neville interprété Tell It Like It Is.
Dans quelle pièce la télé, s'il vous plaît?
Il n'y a pas de télé ici.
Très drôle.
Et le plaisir de lire. Vous connaissez pas ça?
Grand bien vous fasse.
Le plaisir. Les grandes lectures
sur France Inter.
10h25 et ce matin, je vous propose une sélection de quelques livres pour bien commencer 2019 avec Thibaut de Saint-Maurice, Christine Lapelle-Edouel, Julien Bisson, Anne Cazobon et Guillemette Odissino. Écoutons J.K. Rowling, la célèbre créatrice d'Harry Potter, dans un discours à l'université Harvard en 2008.
Sept ans après l'obtention de mon diplôme, j'avais échoué de façon spectaculaire. Mon mariage exceptionnellement court avait explosé. J'étais sans emploi, mère célibataire, et aussi pauvre qu'il est possible de l'être sans être à la rue dans l'Angleterre actuelle. Toutes les peurs que mes parents avaient eues pour moi et que j'avais eues pour moi-même étaient toutes devenues réalité. J'étais moi-même le plus gros échec à ma connaissance. J'étais libre parce que ma plus grande peur s'était réalisée et j'étais toujours vivant. J'avais toujours une fille qui m'adorait, une vieille machine à écrire et une grande idée. Et donc écrire des livres est devenu la fondation sur laquelle je suis parvenue à reconstruire ma vie. Vous ne connaîtrez certainement pas une telle descente aux enfers, mais certains échecs dans la vie sont inévitables. C'est impossible de vivre sans rencontrer d'échecs, à moins de vivre si prudemment que vous ne viviez pas du tout en réalité. Et dans ce cas précisément, vous aurez tout de même échoué.
Anne Cazobon, vous avez donc choisi La meilleure des vies de J.K. Rowling. Alors dans ce court essai publié au livre de poche, J.K. Rowling nous rappelle notamment les bienfaits de l'échec et les vertus de l'imaginaire.
Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle le dit à des étudiants fraîchement diplômés d'Harvard. Harvard. Donc je trouve ça quand même très chouette qu'elle vienne leur parler de l'échec, qu'elle connaît bien. Hein, ses débuts, elle le rappelle, furent difficiles. Mère divorcée qui écrivait dans des cafés, qui sentait la cigarette, vivant d'allocation, avec son bébé dans une poussette sur la banquette, à se faire refuser en permanence ses débuts, ses premiers tomes d'Harry Potter. Et d'ailleurs, elle est très intéressante à suivre sur Twitter, J.K. Rowling, parce qu'en permanence, elle retourne voir des écrivains en herbe pour leur dire « Tu sais, moi, à ce moment-là, j'aurais rêvé que quelqu'un rentre dans ce pub qui sentait le fish and chips et me dise « Ne lâche jamais, il n'y a que toi qui peux écrire ce que tu as à écrire. Surtout, ne lâche rien et continue. » Donc, c'est la meilleure des vies, c'est l'intégralité de ce discours, discours inspirationnel hein, qu'on voit souvent dans ces remises de diplômes à l'américaine. On a tous vu ça dans des films, dans des séries. Elle a un peu révolutionné le genre parce que généralement c'est un peu pompeux. Life is amazing et puis finalement il se passe pas grand chose derrière. On a vu Steve Jobs, on a vu Ellen DeGeneres, Will Ferrell,
la présentatrice américaine.
Voilà, qui viennent de plus en plus parler de leur vie. Je voudrais juste vous lire un petit passage où elle rappelle elle aussi que j'étais persuadée de ne vouloir qu'une chose dans la vie, une seule, écrire des romans. Mes parents cependant, tous deux issus d'un milieu défavorisé et n'ayant ni l'un ni l'autre suivi d'études supérieures, était d'avis que mon imagination débordante était une pittoresque petite excentricité personnelle qui ne me paierait jamais le loyer ni n'assurerait ma retraite. Prophétie, j'en ai bien conscience aujourd'hui, pulvérisée par l'ironie du sort comme par une enclume de dessin animé. Une enclume qui pèse quand même 450 millions d'exemplaires.
La meilleure des vies de J.K. Rowling. Christina Pelé-Noël.
Oui, J.K. Rowling, c'est évidemment un exemple. Il y a un autre auteur anglo-américain, irlando-américain, qui est Colm McCann, l'auteur de Danseur, la magnifique biographie de Nureyev, et qui a écrit un petit livre exactement sur la même thématique et qui est une lettre adressée aux futurs auteurs, futurs romanciers, mais qui évidemment s'adresse à toute la jeunesse et qui est également formidable.
Mais là, J.K. Rowling ne s'adresse pas qu'aux futurs écrivains.
Hein.
Non. C'est typiquement le livre, puisqu'on parlait un peu de la Ode de Noël tout à l'heure, c'est le livre à offrir à un jeune étudiant, à quelqu'un qui se lance dans la vie active. Quelle empreinte est-ce que tu veux laisser au monde?
La meilleure des vies de J.K. Rowling, disponible au livre de poche. Alors, Guillemette Audicino, un livre pour nous évader en ce début d'année. Ça s'appelle Les merveilles les plus secrètes du monde et c'est publié par Lonely Planet.
Oui, alors vous savez, c'est le genre de livre. On passe devant dans un libraire et tout. Déjà la couverture nous attire, le titre. Alors, les merveilles les plus secrètes du monde et tout. Mais on se dit bon, ça va encore être une espèce de collection d'endroits d'abord absolument inatteignables qu'on aura envie de visiter et on n'a pas les moyens. Enfin bon. Et en fait c'est pas grave. Alors effectivement dedans il y a des endroits j'ai absolument pas les moyens d'y m'y rendre. Hein. Mais ça n'a strictement aucune importance parce que c'est un livre assez simple, pas très cher, mais qui fait rêver, qui donne quand même, alors qu'il y a une très bonne idée, c'est qu'en fait ça ce n'est pas par morceaux du monde, mais c'est la planète, mais par la longévité, et puis c'est avec des top 10. Alors par exemple, top 10 des curiosités londoniennes. Ça, Londres, c'est pas loin quand même. Je peux vous dire qu'il y a des trucs, même moi qui suis allée quand même de temps en temps à Londres, des trucs tout incroyables. Les pestiférés de Saint-Paul, ça vous dit ça?
Non. Non,
voilà, il y a des endroits comme ça. Il y a par exemple aussi, vous savez ce que c'est la principauté de Seborga?
Non.
Eh ben, la principauté de Seborga, mes braves amis, c'est un village italien indépendant. En fait, indépendant, c'est vraiment une communauté indépendante qui doit son indépendance à une simple erreur administrative.
Oui,
alors, il y a plein d'anecdotes comme ça, mais absolument géniales. Il y a aussi des endroits du bout du monde qui donnent envie de rêver. Il faut l'avoir sur sa table de nuit, fermer les yeux ensuite. C'est pas grave, on n'ira pas forcément là où le livre nous mène. Mais c'est à la fois gourmand, extrêmement voyageur, des classements drôles. et aider. Et puis il y a quand même des, à un moment, oh là là, oui, il y a aussi le top 10 des roches vertigineuses. Non, enfin, je sais pas, ce truc est plein de gourmandises. Le top 10 des morceaux de mur de Berlin, ça j'aime beaucoup.
Il y en a un devant la maison de la radio,
là, ici, en bas.
Oui, donc bah écoutez, venez. Donc vous voyez, c'est pas si inaccessible que ça. Donc c'est à la fois des endroits que personne ne connaît, d'autres qu'on connaît, mais des petits bouts d'endroits que tout le monde connaît, mais alors là, le petit bout, lui, on le connaît pas. Je trouve ça extrêmement gourmand.
Ça s'appelle Les merveilles les plus secrètes du monde.
Lonely Planet.
Alors, avant qu'un auditeur nous écrive, nous appelle, longévité, je crois qu'on dit plutôt longitudinalité.
Voilà. Absolument.
Voilà. C'est un petit pan sur le
grec. C'était pour faire plaisir à Christy, là. Donc, je sors.
Le grévis, il est là. Tu peux l'utiliser.
Oui, je...
Julien Bisson, un autre ouvrage pour s'évader, c'est Cartes, au pluriel, d'Alexandra Mizilinskika et Daniel Mizilinski.
Oui.
Et c'est publié par Rue du Monde.
Oui, alors si vous le cherchez, vous le trouverez dans le rayon pour enfants, dans les librairies. C'est un livre pour enfants, mais qu'il faudra avoir dans toutes les bibliothèques. Et si vous n'avez pas d'enfants, allez-y quand même, procurez-le-vous. C'est un livre très grand format et qui propose 64 cartes sur des doubles pages des principaux pays du monde. Et ce sont des cartes dessinées. Ce sont des cartes dessinées qui nous montrent à la fois les villes principales, mais surtout les monuments, surtout les ressources naturelles, surtout la faune et la flore locale, mais aussi les plats typiques, mais aussi les grandes figures culturelles, mais aussi les prénoms usuels. C'est un espèce de petit condensé de tous les grands pays du monde avec des illustrations qui sont absolument magnifiques. Mais surtout, c'est cette idée, vous savez, à un moment, on fait tous le deuil, et Guillemette vient de le dire, du fait qu'on ne verra jamais toutes les merveilles du monde. On les verra pas, c'est pas grave. Il faut s'en faire le deuil. Mais par contre, avoir toujours près de soi un atlas qui vous rappelle qu'elle est juste là, la beauté du monde. Elle Exactement. Est juste à côté. Elle existe. Vous savez, il y a cette idée dans Les Racines du Ciel de Romain Gary, quand son personnage, ce qui est enfermé pendant la guerre, pense aux éléphants qui courent dans la savane et que ça lui permet de penser à la liberté. Ben, il y a un peu de ça, moi, je trouve, dans les atlas, parce que ça nous permet de penser que la beauté n'est jamais loin et qu'il suffit de d'y penser pour qu'elle soit, elle nous soit familière. Donc, ces cartes nous permettent, pour les enfants, mais aussi pour les adultes, de reprendre, avoir un petit peu un contact assez sensuel avec la beauté du monde.
Mais c'est tellement vrai, ça. C'est important de savoir que la beauté existe, même si on n'a pas forcément les moyens d'aller vraiment à sa rencontre. Savoir qu'elle existe, c'est déjà merveilleux, ça fait un bien fou. Et je suis d'accord avec toi sur certains livres pour enfants, qu'en fait, il faut avoir tous, et qui sont souvent, de par leur nécessité de pédagogie, de beauté, leur nécessité d'être attractifs, sont souvent beaucoup plus fréquentables et nettement plus plaisants que des livres pour adultes.
Christina Pédégol.
Oui, et alors, puisqu'on fait un petit détour par la littérature jeunesse, je ne peux que chanter les gloires et les beautés de la littérature pour les enfants et les adolescents, qui est tellement inventive, tellement créative, tellement extraordinaire, tant sur le plan des illustrations que des textes, et que de l'édition. Il y a une imagination dans le travail des éditeurs. Je me demande pourquoi les éditeurs de livres pour adultes n'en font pas autant.
Julien Bisson nous conseillait Cartes au pluriel d'Alexandra Mizilinska et Daniel Mizilinski, et c'est publié par Rue du Monde. Alors Christina Pénédouel, vous nous recommandez un livre qui sortira le 23 janvier prochain chez Payot. Ça s'appelle La vie solide, la charpente comme éthique du fer d'Arthur Lockman.
Oui, alors, Arthur Lockman est un jeune auteur. Alors, le fer, je précise, c'est F-A-I-R-E, hein, c'est le verbe faire, pas le fer, F-E-R. Arthur Lockman est un jeune homme, il a 32 ans, et il est diplômé, enfin, il a un diplôme de philosophie, mais il a fait des études de philosophie et de droit. Et voilà que, après ses études, donc il est passé par la case classe préparatoire, préparation des concours, etc. Et puis, il s'est dit, mais avant de pouvoir faire ce que j'ai vraiment envie de faire, c'est-à-dire écrire, il va falloir quand même que je gagne un petit peu ma vie. Et donc, il a décidé, ce que je trouve vraiment remarquable, de suivre une formation, de passer un CAP pour devenir charpentier. Donc, son livre est une ode au travail manuel et à ce que le travail manuel, l'artisanat, est une manière de penser et d'appréhender le monde et de développer son esprit.
Est-ce que c'est dans la lignée de l'ouvrage de Matthew Crawford, L'éloge du carburateur?
Absolument, absolument. Et d'un autre livre, alors dont voilà, je retrouverai la référence qui parlait justement de la main, un auteur américain qui parlait de la main. Et ce livre, ce petit livre, écoutez, c'est vraiment, moi, c'est mon coup de cœur du début de l'année. Je trouve que c'est une perle, c'est une merveille. Il remet les choses en place, il fait la part belle, alors non seulement au travail manuel, qui est une idée très philosophique, ancienne, hein. Les Grecs parlaient déjà de cette nécessité, mais aussi qu'on retrouve en fait dans les grandes religions et dans les grandes traditions spirituelles. Dans le bouddhisme, on trouve cette idée aussi du lien entre le corps et l'esprit, entre le corps et le cœur, et donc cette espèce de développement de l'entièreté de la personnalité à travers et grâce au travail manuel, qui est une intelligence particulière qui permet de développer à la fois son corps et son habileté et en même temps son esprit. Et il ajoute, ce qui est très important, c'est le bonheur du faire, le bonheur du bien faire, du beau travail accompli qui est en soi une floraison de la personnalité, un bonheur intime que rien, absolument rien, ne peut remplacer.
Guillemette.
Oui, parce que, en fait, là, une fois de plus, c'est pouvoir regarder quelque chose de beau qui vient de nous, en fait. Et c'est pas quelque chose d'abstrait. C'est extrêmement important, en fait, de pouvoir contempler son acte. C'est tellement... à la fois valorisant et réconfortant aussi sur ses propres compétences. Oui. C'est sûr que ça a plus de gueule qu'un tweet, quoi.
Mais ce qu'il dit et qui est très très important, c'est le sens de ce qu'on est en train de faire. Et l'artisanat bien fait, et en particulier la charpente, qui est vraiment tellement importante. Dans une maison sans charpente, s'effondre. Donc il y a un sens profond à faire, à créer la charpente d'une maison.
C'est abriter les siens.
C'est abriter les siens, c'est un sens universel, humain. C'est vraiment, ce livre est un bijou.
Julien Bisson.
Oui, et le bonheur de faire, il peut se retrouver dans toutes les activités du quotidien.
Absolument.
Pas besoin d'avoir forcément la charpente en carburateur. J'allais parler de la cuisine.
La cuisine,
c'est le bonheur du faire. C'est quand bien même le plat sera très réussi ou moins bien réussi.
Le bonheur de nourrir.
Mais le simple bonheur de cuisiner, c'est déjà le bonheur de faire.
Le conseil de Chrysilla Pellidouel, c'est La vie solide, la charpente comme éthique du fer d'Arthur Lockman. C'est publié par Payot. Ça sort le 23 janvier. Et Chrysilla, vous évoquiez tout à l'heure un ouvrage consacré à la main. C'est l'ouvrage de Richard Sennett, Ce que c'est la main, ce que c'est la main, la culture de l'artisanat. Julien Bisson, pourquoi avoir choisi une éducation de Tara Westover chez Lattès? Pour Barack Obama, ce sont les mémoires remarquables d'une jeune femme qui décide d'échapper à son destin.
Oui, Tara Westover, une éducation, c'était un livre qui a eu un succès phénoménal aux États-Unis l'an dernier, et qui paraît chez Lattès dans quelques jours. Je crois qu'il paraît le 9 ou le 10 janvier. Tara Westover, c'est une auteure que moi j'avais découvert. On avait publié un texte d'elle dans America à l'automne dernier. Et là, c'est une version beaucoup plus dense de ce texte. C'est-à-dire, c'est une version beaucoup plus riche, beaucoup plus longue, puisqu'elle raconte son enfance pas comme les autres. Elle a été élevée par un père fondamentaliste mormon, survivaliste, qui était persuadé que la fin du monde allait arriver en l'an 2000, et qui l'a élevé dans une ferme au fin fond de l'Idaho. Donc l'Idaho, pour ceux qui connaissent un peu les États-Unis, c'est vraiment au milieu de nulle part, au milieu des montagnes. Tara Westover a grandi sur cette ferme sans jamais aller à l'école, sans jamais aller à l'hôpital, puisque son père était convaincu que tous les docteurs n'étaient que des charlatans, sans jamais apprendre à lire ailleurs que dans la Bible, le livre des Mormons et les grands discours de John Smith. Et elle raconte dans ce livre comment, déjà cette enfance-là, où elle a souffert beaucoup de la violence, des accidents, du manque de soins, et ensuite elle raconte son émancipation progressive, et c'est là où ce livre est formidable. Elle raconte son émancipation d'abord en réussissant à accéder à l'université mormone de Salt Lake City, où elle découvre des choses dont elle n'avait jamais entendu parler. Elle découvre l'Holocauste, Elle découvre Napoléon, elle découvre l'Europe, elle découvre Martin Luther King. Personne ne lui a jamais entendu parler, ne lui a jamais expliqué tout cela. Et puis, comme c'est une fille très intelligente, elle arrive à accéder à une bourse qui lui permet d'aller à Cambridge, qui lui permet d'aller à Harvard et qui lui permet d'accomplir finalement cette émancipation qu'elle avait entamée des années plus tôt. Et c'est un livre très beau aussi parce qu'elle raconte que cette émancipation ne se fait pas sans mal. C'est-à-dire combien même elle reconnaît au fur et à mesure que l'éducation donnée par ses parents et notamment par son père était une éducation violente, une éducation mortifère. Elle ne peut pas totalement renier ses parents. Elle a beaucoup de mal à accepter de quitter totalement le cercle familial, mais elle y parvient néanmoins. Et je pense que c'est un livre qui va donner beaucoup de, qui peut donner beaucoup d'idées à des gens qui ont pu grandir dans des milieux difficiles, dans des milieux dont ils se sont dit qu'il était impossible de s'extraire. C'est un livre qui justement donne au contraire du courage, qui donne un exemple de volonté pour réussir à sortir d'une enfance aussi difficile. C'est, voilà, je vous dis, ça a eu un succès phénoménal aux États-Unis. J'espère que ça l'aura aussi en France.
Christina.
Moi, je crois que c'est un des grands livres de la rentrée de janvier, hein, véritablement. Et alors, il y a deux personnages essentiels dans ce livre dont vient de parler si bien Julien. C'est la mère et la grand-mère qui sont deux piliers qui permettent justement à cette jeune fille de pouvoir s'appuyer pour pouvoir prendre son élan et se sortir de cette famille de fous.
Une éducation de Tara Westover, c'est publié chez La Tesse et c'est le conseil de Julien Bisson. Quelques messages sur notre page Facebook. Martine nous dit, entre deux livres, je prends au hasard un passage du dictionnaire amoureux du rock d'Antoine de Caunes. Bien écrit, drôle, je me régale. Sarah nous conseille de lire Émile Cioran. Sa froide lucidité, son pessimisme qui vire au cynisme me fait du bien et me fait rire comme un énorme lâcher prise sur moi et le monde. Vous approuvez, monsieur le philosophe Thibaut de Saint-Maurice ?
Oui, enfin, il faut quand même être un peu stable dans le reste de sa vie, parce que ça peut décaper sévère.
Et Dario nous conseille L'homme révolté de Camus. Mes salutations depuis l'Argentine. Allez, dites-nous quels sont les ouvrages que nous avons eu de nous conseiller en ce début d'année. Dites-nous tout au 01 45 24 7000. Taureau et moi interprété Ordinary Pleasure.
Oh, je suis jamais scroller de psychologie comme ça. Oh, c'est très intéressant tout ça.
Grand bien vous fasse.
Vous faites que je tenais pas le make-upine pour leur dire.
Sur France Inter.
11h moins le quart et ce matin, je vous propose une sélection de quelques ouvrages qui vous donneront une belle énergie en 2019 avec Thibaut de Saint-Maurice, Christy Lapé-Lédouelle, Julien Bissouane-Cazobon et Guillaume Todicino.
Non seulement j'ai lu et relu les propos sur le bonheur, mais je les ai fait lire par des centaines d'amis qui ont été, par cette lecture, guéris de maux, d'angoisses et de défauts qui auraient empoisonné leur vie. Tout homme et toute femme devrait penser continuellement à ceci, que le bonheur, j'entends celui que l'on conquiert pour soi, est en même temps l'offrande la plus belle et la plus généreuse aux autres.
André Mauroy en 1954 sur France Culture. Thibaut de Saint-Maurice, vous affectionnez un philosophe français, professeur de Sartre, Alain. Et pour vous, il est bon de lire en ce début d'année ses propos sur le bonheur en poche, chez Folio ou dans la bibliothèque de la Pléiade.
Oui, parce que on ne lit plus tellement Alain. C'est un philosophe qui est un peu méprisé par les philosophes eux-mêmes parce qu'on considère que c'est un philosophe un peu sans œuvre ou en tout cas sans grand concept. Etc., etc. Je pense que c'est une erreur parce que Alain, son œuvre en fait est principalement dans ses propos. Alain a écrit dans la presse toute sa vie, donc ça fait les propos d'Alain. Et là, il y a une sélection qui réunit les propos sur le bonheur. Ce sont des chroniques en fait. Donc voilà, hommage d'un chroniqueur à un autre, mais toute chose égale par ailleurs,
n'est-ce pas?
Et voilà. Et donc ce qui est intéressant, c'est que en réalité, il y a dans ces propos toujours une porte d'entrée assez simple. Par exemple, il y en a un que j'aime beaucoup, c'est la difficulté que nous avons à vivre avec nos voisins. Quand ils sont trop loin, on se sent seul, et quand ils sont trop proches, on se sent vraiment envahi. Et donc, à chaque fois, voilà, c'est l'ennui, le voisinage, le couple ou un repas, un dîner entre amis, etc. Et donc, à chaque fois, il y a ce point de départ, et en même temps, quand on les lit un petit peu dans la continuité, justement, voilà, se dégage cette philosophie de Alain, qui est extrêmement simple, qui est répétée aussi de manière assez fréquente, et qui est « ne pas subir, mais agir ». Et puis, cette citation que vous affectionnez, Ali, « le pessimisme est d'humeur, l'optimisme est de volonté ». Voilà, Alain, c'est une philosophie de la volonté, de l'action, de la générosité. Ça fait beaucoup de bien. Dans un moment où on se dit, peut-être il m'arrive des choses pas très bien, je sais pas, j'ai pas beaucoup de chance, etc. Ce que nous dit Alain, c'est que, en un sens, on peut agir aussi. Voilà. Alors, il dit pas que c'est facile, mais il dit que c'est précisément dans l'action et même parfois dans l'effort et dans la difficulté de l'action que on trouvera du plaisir et, à terme, une vie heureuse. Voilà. Donc, moi, je vous encourage vraiment à redécouvrir si vous avez un peu oublié ou au contraire à découvrir si vous ne connaissez pas ces petits textes. Et puis, il faut terminer par dire que c'est excellemment bien écrit. Pour les amateurs de punchline, c'est vraiment une sorte de champion de la punchline avant l'heure.
Christy Lapé-Lédouelle.
Oui, le champion de la punchline, ouais. C'est vrai que c'est une langue absolument remarquable, hein. Mais c'est souvent le cas, justement, des écrivains qui écrivent des choses très, très courtes, des aphorismes. C'est vraiment le ciselage de la langue. Et c'est chaque fois, on est étonné, épaté devant la rapidité du trait.
Les propos sur le bonheur, c'est le conseil de Thibaut de Saint-Maurice. Les propos sur le bonheur d'Alain, évidemment. Bonjour Marie, bienvenue dans l'émission.
Oui, bonjour.
Bonjour, vous appelez de Toulouse. Bienvenue, oui. Et belle année à vous. Votre conseil en ce début d'année?
C'est le journal intime de Hetty Hillesum.
Oui.
Qui était une jeune fille d'Amsterdam. Juive par sa famille, mais pas par sa foi. Mmh. Elle était athée et très socialiste et très, très militante. Et elle s'est trouvée emportée par les rafles d'Amsterdam qui amenaient les Juifs au camp de Westerbork. Donc, elle a été ensuite assassinée à Auschwitz avec sa famille et ses amis. Alors qu'elle aurait pu tout à fait se cacher et s'évader.
Pourquoi vous le conseillez, Marie? Pourquoi vous conseillez ce journal d'Hetty Hillesum?
C'est une jeune fille extrêmement intégrée dans sa société d'Amsterdam. Elle était très libérée sur le plan affectif, sexuel, elle est, comme les jeunes femmes de maintenant. Elle était très en avance sur son temps. elle était assez égocentrique, très en recherche d'équilibre psychologique.
Mais Marie, Marie, pourquoi vous conseillez ce journal des Tilsum en ce début d'année 2019?
Je trouve qu'il y a 20 ans, j'ai perdu un enfant et que j'étais désespérée. Par hasard, un jour, dans une librairie, je suis tombée sur son journal. Et c'est quelque chose qui m'a absolument aidée d'une manière très importante. Alors, je suis sortie du désespoir, en fait, en voyant la force psychologique qu'elle est arrivée à construire à partir de cette situation et de son égocentrisme, et petit univers replié sur elle, quand même, bien qu'elle ait beaucoup d'amis, pour être dans un amour de la vie, malgré les circonstances terribles. Elle a développé un désir de bonheur et de faire partager ce bonheur en aidant les gens.
Merci beaucoup Marie. Une vie bouleversée d'Eti Ilsoum, son journal, c'est publié en poche chez Point. Merci beaucoup Marie de nous avoir appelé. Anne Cazobon, tiens, en ces temps violents de clash permanent, vous nous conseillez la communication non violente au quotidien du psychologue Marshall Rosenberg. C'est publié en poche aux éditions Jouvence.
Oui, la CNV au quotidien, à ne pas confondre avec la communication non verbale, la CNV qui fait la une de l'Obs cette semaine. Oui. Avec la personne de Thomas Dansembourg, qui est un spécialiste de la communication non violente, dont le fondateur, le créateur est Marshall Rosenberg, ce psychologue américain qui est décédé il y a 3 ans maintenant aux États-Unis. Il a créé ce processus de communication qui se veut être une solution créative pour satisfaire les deux parties et pas forcément pour arriver à ses fins. L'idée, c'est vraiment de tempérer un peu tout cela, d'éviter de laisser sortir le roquet qui sommeille en chacun de nous et d'en venir aux mains. Hein, c'est une manière de s'exprimer pour éviter vraiment de se balancer les pots de fleurs à la figure. Donc ça sert à tout le monde, dans le couple, dans la famille, dans les collègues, les open space particulièrement, dans les transports en commun, des jours de grève, par temps de canicule. C'est toujours bien d'avoir son petit livre de communication non violente dans le sac à main. Juste pour vous expliquer, le processus se tient en 4 étapes. Donc c'est l'observation, le sentiment, le besoin, la demande. En gros, l'observation, c'est plutôt que de dire « t'es toujours occupé, tu me téléphones jamais », observation. Ça fait 2 mois que tu ne m'as pas appelé. Sentiment, ressenti, ça m'inquiète ou ça me rend très triste. Besoin, j'ai besoin de nourrir notre amitié, notre relation, me manque. Demande et non exigence. Je voudrais que l'on trouve ensemble un meilleur moyen d'être en lien.
Donc c'est la communication non violente au quotidien du psychologue américain Marshall Rosenberg. Une bonne résolution ce début d'année, marcher, randonner, flâner en forêt, dans un bois, dans un parc. C'est absolument merveilleux, n'est-ce pas, Chrissy Lapédédoile?
Oui.
Du côté de chez vous, en forêt de Fontainebleau. Et pour mieux apprécier ce spectacle de la nature, eh bien, Guillemette Odissino, vous nous conseillez le Larousse des arbres de Jacques Brosse. C'est absolument extraordinaire.
Ah, je suis dingue de ce livre. Bah oui, c'est dans Larousse, en fait. Déjà, j'aime bien que ce soit dans Larousse.
Le Larousse des arbres.
Le Larousse des arbres. Il vient d'être réédité. Alors, évidemment, c'est un peu lourd pour se trimballer en forêt avec, sauf si vous avez un sac à dos bien solide. Mais il faut bouquiner avant d'y aller ou bouquiner en revenant, en ayant arraché une feuille d'un arbre, en disant, mais mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ce spécimen d'arbre, je ne sais pas. C'est une mine. Alors, ça a vraiment tout le bon côté du Larousse, c'est-à-dire ça vous explique à peu près les 160 000 espèces d'arbres que nous avons
et d'arbustes
que nous avons en Europe. Donc quoi que vous croisiez, normalement c'est dedans. Mais c'est aussi bourré d'anecdotes. Par exemple, moi j'adore la mythologie. Et ben ça vous dit, par exemple, alors les Vikings, ben pourquoi ils aimaient le frêne? Comment ils considéraient le frêne? Ben comme un soutien du ciel. Déjà moi ça y est, je plane. Donc il y a de tout. Il y a vraiment du pratique, du pédagogique. Et des choses qui font rêver dans ce Larousse, c'est une petite merveille.
Chrissy Lapédédoile, on apprécie mieux le spectacle de la forêt quand on identifie précisément les arbres qui nous entourent.
Mais ce n'est pas nécessaire de les identifier tous, mais en revanche, en effet, pouvoir avoir une connaissance plus intime de ce qui se passe dans ce milieu qu'est la forêt, ça permet d'apprécier encore plus, davantage, le moment où on va se promener, où on va marcher.
Le Larousse des arbres de Jacques brosse avec une préface du regretté Jean-Marie Pelt. C'est publié chez Larousse. Alors, Julien Bisson, après avoir marché au milieu des châtaigniers, des tilleuls et des peupliers, bah, il est bon de se restaurer et pourquoi pas picorer des recettes dans Big Mama, cuisine italienne, publiée chez Marabout. C'est absolument fabuleux. Guillemette Audicino a envie de me le piquer, mais je ne lui céderai pas.
Oui, mais bien repris, là.
Julien Bisson, pourquoi Big Mama, cuisine italienne?
Alors, c'est cuisine italienne sous-titrée Con molto amore.
Avec un peu d'amour.
Beaucoup d'amour. Beaucoup d'amour. Beaucoup d'amour. Et pour tous ceux qui aiment la cuisine italienne, et je sais qu'on est nombreux dans ce cas-là, c'est une véritable bible. C'est une véritable bible parce que c'est un recueil de recettes, mais aussi de techniques, mais aussi de pages sur les ingrédients de base de la gastronomie italienne. Absolument formidable.
C'est drôle.
C'est très drôle. C'est très très drôle. C'est des photos très drôles. Il y a des chefs italiens qui sont dans des situations absolument désopilantes. Et c'est très drôle également dans le nom des recettes. Je sais que Guillemette Audicino a déjà craqué pour cette préparation de jambon de Parme qui s'appelle le Parmela Anderson. Pour moi, de mon côté, j'avoue avoir une faiblesse pour une recette qui s'appelle la pasta Jean-Claude Vitello, qui est des pâtes au veau, au safran, aux courgettes et à la sauge. Promis, Ali, la prochaine fois que vous venez dîner à la maison, je vous la cuisine.
Big Mama, cuisine italienne, c'est publié chez Marabout. Thibaut de Saint-Maurice, un livre qui peut faire du bien au couple, c'est La fidélité ou l'amour à vif de Michela Marzano, et c'est publié chez Fayard.
Oui, alors du bien au couple, mais pas seulement ou pas directement ou pas, voilà, pas uniquement, parce que en réalité il est aussi question dans ce livre de ce qu'on pourrait, de ce que Michela Marzano appelle la fidélité à soi-même. Elle pose aussi ce problème là Michela Marzano, c'est une philosophe contemporaine italienne qui est absolument formidable, qui a énormément travaillé sur le désir dans nos sociétés contemporaines. Il y a deux choses qui me plaisent énormément dans ce livre et pour lequel je le conseille. C'est la première, c'est que en réalité on parle assez peu de fidélité. La fidélité est un peu une sorte d'angle mort de notre conscience contemporaine, parce que on considère que c'est peut-être un peu ringard, un peu désuet, un peu moralisant, etc. Or, il me semble qu'il est très difficile d'évacuer la fidélité de sa vie, de la fidélité à ses amis, à ses amours, à soi-même. On ne peut pas vivre sans fidélité. Et la deuxième raison pour laquelle je conseille ce livre, c'est que c'est un très beau livre de philosophie morale, voilà, au sens strict, qui n'est absolument pas moralisant. Voilà, c'est un très beau travail d'analyse de cette notion et de ce que ça peut peser dans notre vie, sans aucune leçon de morale. Donc voilà, allez-y.
La fidélité ou l'amour à vif de Michela Marzano, c'est disponible en poche, hein, je crois.
Oui,
hein.
oui, absolument. Chez... En poche, c'est chez Pluriel.
Merci beaucoup. Alors on pourra retrouver toute votre sélection sur l'appli France Inter et sur la page Facebook de Grand Main Vous Fasse. Vous reviendrez parce que vous avez encore un tas de livres sur la table. En tout cas, merci d'être venu, Thibaut de Saint-Maurice, Anne Cazobon, Christine Lapelle-Edouel, Julien Bisson et Guillemette Audicino. Merci aux standardistes de France Inter, la documentation de Radio France et la programmation musicale de France Inter, signée Muriel Pérez. Lundi, on se demande si l'autisme est une intelligence atypique. Nous recevrons notamment le psychiatre David Gourion et la psychologue Séverine Leduc. N'hésitez pas à nous contacter si vous êtes parent d'un enfant autiste ou si vous êtes vous-même atteint du trouble du spectre autistique au 01 45 24 7000 sur l'appli France Inter et la page Facebook de Grand Bien Vous Fasse.